Arcania, Chloé Morand-Bridé,
Jacques Lavergne.
Bonjour.
Bonjour.
Arcania, l'émission résiliente. La chose importante à garder en tête est qu'il ne faut jamais attendre une minute pour commencer à changer le monde. Extrait du journal d'Anne Frank.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie, ravi de vous retrouver avec Chloé. Et on commence traditionnellement par la citation. Il est hélas devenu évident que notre technologie a dépassé notre humanité. C'est d'Albert Einstein, ça ne vous étonnera pas.
Et maintenant, le menu de l'émission. Nous allons évoquer aujourd'hui dans le feuilleton la canicule récente, vous donner des nouvelles de la planète à travers quelques brèves et surtout aborder la problématique de l'industrie textile, de la fast fashion et de l'environnement.
Voilà, c'est Arcania. Vous avez le programme et c'est maintenant. Alors feuilleton qui veut traiter de cette fameuse canicule. Vous l'avez vu, hein, un titre choc du journal Le Monde pour évoquer un sujet que ce change de mots, on pourrait qualifier de brûlant. L'affaire est sérieuse, elle n'est pas nouvelle. Nous avons déjà été avertis par la nature. En Europe et en France même, nous avons ressenti les effets de cette vague caniculaire. Mais ce n'était rien en comparaison de la situation des deux pays cités. New Delhi, le nord de l'Inde et le Pakistan sont écrasés depuis mars par une vague de chaleur exceptionnelle. La capitale indienne a enregistré un record historique de 49,2 degrés centigrades. Les hommes sont couchés, souvent sous ce qu'on appelle là-bas un banyan, seul endroit protégé du soleil. Il est 10h30, imaginez, le thermomètre affiche déjà 41 degrés centigrades à Delhi. C'est le jeudi 19 mai, nous explique la correspondante du Monde, Sophie Landrin. Les rives de la Yamuna, des terres inondables, abritent ainsi 9300 familles de paysans, d'horticulteurs. Plus de 46 700 personnes vivent dans un dénuement extrême, dans des huttes en bambou, sans électricité, sans accès à l'eau potable, sans route asphaltée, au milieu d'un no man's land traversé par des lignes à haute tension. Les piliers des ponts du métro, des changeurs routiers, une sorte de sous-monde presque invisible, globalement l'horreur. Le gouvernement de Delhi leur distribue de l'eau potable par camion-citerne. Celle puisée dans le sol, d'une couleur jaune, est chargée de métaux lourds et autres polluants. Elle est tout juste bonne à laver le linge et est malheureusement à arroser les légumes. La canicule qui s'est abattue depuis le 11 mars sur le nord de l'Inde a endommagé toute la production. Ces hommes et ces femmes gagnent normalement dans les bons mois 8000 roupies, ça veut dire, ça correspond à 98 euros, imaginez. Ils souffrent tous, hommes, femmes, enfants, de maux d'estomac, de vomissements, de diarrhée. Les cabanes n'ont pas de fenêtres, juste une ouverture centrale, le toit en paille est recouvert d'une bâche plastique. C'est une étuve à l'intérieur, bien évidemment, il n'y a pas d'électricité, je vous l'ai déjà dit, et on ne peut pas donc faire marcher un ventilateur, quand un climatiseur, on n'y pense même pas. Dimanche 15 mai, la capitale indienne de plus de 20 millions d'habitants a enregistré un record historique de 49,2 degrés centigrades dans les quartiers pauvres, dans les stations, là où il y a très peu d'arbres et un urbanisme très dense. Une fournaise insupportable que subit la population dans des habitats, vous l'avez compris, totalement inadaptés. Et ailleurs, dans la mégalopole, il fait à peu près 46,7 degrés centigrades. Depuis deux mois, l'air est brûlant, sec, poussiéreux. La nuit, le thermomètre ne descend plus maintenant au-dessous de 31 degrés. La description, vous le comprenez, est terrifiante. Celle de la situation du Pakistan est identique. Les conséquences économiques vont bientôt se faire sentir. Elles seront dévastatrices. Les canicules risquent de devenir la norme dans cette région déjà soumise à une pollution extrême de l'air durant la période hivernale. Une région où l'espérance de vie des habitants est réduite de 9 ans. Une étude du Met Office britannique, publiée le 18 mai, estime que la probabilité d'une vague de chaleur record dans le Nord-Ouest et au Pakistan a été multipliée, tenez-vous bien, par 100 en raison du changement climatique. Je pense que tout commentaire serait superflu. Et on parle un peu de la planète. Alors, on vient de parler d'un endroit de la planète où, effectivement, aujourd'hui, il ne fait pas très bon vivre, surtout si l'on est pauvre. Mais il n'y a pas que l'Inde et le Pakistan, Chloé.
Tout à fait. Et donc, c'est comme ça qu'on va commencer les brèves. Alors, commençons cette série de brèves par les actus chaudes. Une des plus marquantes ces derniers jours, c'est bien sûr le nouveau gouvernement de notre président fraîchement réélu. Et il a une saveur...
Le mot est juste.
Et il a une saveur particulière puisque ce sont deux femmes qui vont se charger de la question de l'écologie. À savoir Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, sous l'œil d'Elisabeth Borne.
Alors, qui sont ces femmes? Parce que finalement, on ne nous a jamais dit d'où elles venaient, d'où elles sortaient. Est-ce qu'on peut se fier à elles pour se charger d'une telle tâche, Chloé?
Alors, Amélie de Montchalin, d'abord, était jusque-là ministre de la Transformation et de la Fonction publique depuis juillet 2020. Elle a notamment porté la réforme de l'ENA, transformée en Institut national du service public en 2021. Son parcours témoigne d'une fidélité au chef d'État. Elle a d'ailleurs été élue députée LEREM en 2017 dans l'Essonne. Puis elle est devenue secrétaire d'État chargée des affaires européennes en mars 2019. Cette dernière est également passée par la banque BNP Paribas et son mentor politique n'est autre que Valérie Pécresse. Ce n'est donc a priori pas un historique significatif de préoccupation particulière pour l'environnement. Et pour ce qui est d'Agnès Pannier-Runacher, cette dernière était ministre déléguée chargée de l'industrie. Auparavant, elle avait occupé le poste de secrétaire d'État au ministère de l'économie avec Bruno Le Maire. Elle est également une ancienne inspectrice des finances. Là aussi, on ne sent pas vraiment l'esprit vert de cette femme politique. Or, il aurait été préférable d'avoir des ministres un minimum formés aux questions d'écologie, étant donné l'urgence climatique qui nous guette. Et elles ont donc la responsabilité de mettre en place la planification écologique établie par Emmanuel Macron, sur laquelle il y a beaucoup de pression. On en avait parlé lors de la précédente émission, mais ce dernier se doit d'assurer un certain nombre de mesures urgentes pour l'environnement, étant donné le bilan écologique de son dernier mandat peu concluant.
Je pense, Chloé, que le Shift Project et Jean-Marc Jancovici avaient proposé de faire des sessions de formation au profit des membres du gouvernement. Ils en auraient bien besoin parce qu'ils n'y connaissent strictement rien. Il y a beaucoup de lois physiques qu'ils doivent apprendre. L'environnement, ce n'est pas uniquement de l'économie et du romantisme. Il faut vraiment avoir les pieds sur terre. Alors après, qu'elle soit versée dans ces techniques ou pas, plus important, c'est peut-être de savoir jusqu'où elles pourront aller, est-ce qu'elles auront ou non les mains libres. On a vu le précédent de M. Hulot qui, lui, savait de quoi il parlait, mais malheureusement, il n'a eu aucune possibilité de s'exprimer. Alors l'Australie, ça bouge, en Australie, pas le climat, mais d'autres choses.
Et oui, on continue avec les actus récentes, et donc on part à l'autre bout du monde littéralement, puisque nous allons nous intéresser à l'Australie, et plus particulièrement à ses élections législatives. Depuis le 21 mai, l'Australie a un nouveau Premier ministre, qui n'est autre que le travailliste Anthony Albanese. J'espère que je n'écorche pas son nom. Et c'est une victoire qui a un goût particulier, car elle inscrit le conservateur Scott Morrison dans la défaite après 9 ans de pouvoir. C'est donc un véritable tournant politique que l'Australie s'apprête à prendre.
Alors politique, oui, ça à l'évidence, hein, mais est-ce que ça va changer quelque chose avec l'environnement? Est-ce que ça a un lien avec l'environnement?
Et ben en fait, cet ancien Premier ministre qui vient d'être écarté était un fervent défenseur du charbon. Il faut savoir que l'Australie possède une industrie minière très importante et donc que le charbon est la principale source d'énergie du pays. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas la meilleure idée que de tourner essentiellement au charbon lorsqu'on sait que nous sommes en train d'atteindre un point de non-retour au niveau de la courbe du réchauffement climatique. D'autant plus pour les Australiens qui connaissent depuis 3 ans des épisodes climatiques très inquiétants comme des sécheresses, des incendies et des inondations. Cette dernière est également de plus en plus menacée par la montée des eaux et c'est pourquoi bon nombre d'Australiens avaient placé leur espoir dans la réussite du Parti vert. Mais avec Anthony Albanese, c'est un retournement de situation totale qui s'opère. Ce dernier a pour ambition, avec le soutien de son parti, de mettre plusieurs mesures en place le plus rapidement possible. D'abord, d'ici 2030, il veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% par rapport au niveau de 2005. Ensuite, il compte mettre en place des aides pour l'achat des voitures électriques. Et il a également des projets sur l'énergie solaire et les batteries. Enfin, il veut adopter un mécanisme renforcé pour inciter les grandes entreprises à réduire leurs émissions. On se doute que cette liste est non exhaustive et que d'autres mesures seront prises avec le temps dont il dispose, mais en tout cas, c'est un soulagement pour les Australiens lassés de la non-prise en charge de la situation climatique par leur prédécesseur Morrison.
Oui, rappelons que les voitures électriques, c'est très bien, mais ça dépend comment est fabriquée l'électricité avec laquelle elle roule, et que certaines voitures électriques, et notamment en Chine, qui fabriquent beaucoup de voitures électriques, mais qui les nourrit à l'électricité charbon. Donc ça n'a strictement aucun effet, c'est même pire d'ailleurs, puisque leur impact écologique est supérieur au moteur thermique.
Oui. Greenwashing ou pas, nous saurons.
Voilà. Alors, le bilan de la COP15 qui s'est tenue sur la désertification, Chloé.
C'est ça, donc toujours de l'actu à l'international. Maintenant, on atterrit sur le continent africain pour faire le bilan de cet événement dont vous venez de parler, la COP15 désertification.
Et pourquoi ils l'ont appelée désertification ?
Et ben en fait, ça correspond à un processus, naturel ou non, de dégradation des sols qui a pour origine des changements climatiques et ou les conséquences des activités humaines. Donc cette convention a pour but principal de lutter contre la désertification qui affecte déjà 40% des terres émergées. Cette conférence des parties de l'ONU sur le climat s'est tenue à Abidjan pendant les deux dernières semaines et s'est achevée le vendredi 20 mai dernier.
On a très peu parlé d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Nous en parlons, mais on est peut-être dans les quelques rares avoir abordé cette question.
Toujours premier sur l'info, voilà.
Toujours.
C'est ça qu'on en parle. Avec 5000 participants venus de 197 pays différents, cet événement a donné naissance à 38 résolutions. Parmi elles, l'objectif de restauration d'un milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030, avec l'engagement de 128 pays autour de cette mesure. La lutte contre la migration et les déplacements provoqués par la désertification grâce à la création d'opportunités sociales et économiques, et la question de la participation des femmes à la gestion des terres a également été au cœur des débats. Cependant, ce rassemblement connaît, comme la COP26 précédemment, nous l'avons vu, des ratés. Un point regrettable est sur le sujet de la sécheresse. Aucun accord commun n'a été trouvé, alors que ce sujet était un des points phares et des plus urgents de la conférence. Plusieurs pays auraient voulu faire émerger un protocole contraignant ajouté à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification sur les émissions des gaz à effet de serre, mais les Américains ont refusé. En revanche, Jean-Luc Chotte, entre autres président du comité scientifique français de la désertification, était présent à Abidjan tout le long de la COP15 et ce dernier se félicite de cette conférence et des journées consacrées à des thèmes environnementaux précis comme l'agroécologie et la Grande Muraille Verte.
Du moment que l'on parle et qu'on travaille, c'est toujours une bonne nouvelle. Il faudrait quand même que ça aboutisse, surtout que les conférences se multiplient. On y dit des choses très intelligentes, très conscientes du problème. Mais derrière, ça ne se traduit absolument pas dans les faits et nous savons qu'aujourd'hui, nous jouons contre la montre. On écoute un peu de musique, Chloé ?
Oui, une pause musicale avec « Girl, you'll be a woman soon » de Huge Overkill.
Quel accent !
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Yeah.
Voilà, c'était Girl, You'll Be a Woman Soon du fameux film Pulp Fiction. Et on passe maintenant au sujet principal qui sont les industries textiles, la fast fashion, l'environnement avec Jacques.
Oui, merci Chloé. Alors quoi de plus banal que d'acheter des vêtements, de faire les boutiques, de se faire plaisir, de rechercher le dernier vêtement à la mode, de vouloir porter des fringues griffées d'une marque célèbre, d'avoir envie d'en jeter en portant des tenues élégantes, chic, de faire classe. Quoi de plus banal, oui, mais d'abord c'est pas à portée de toutes les bourses, avouons-le, il y en a pour tous les prix, il y a des grands faiseurs aux marques à prix cassé, tout le monde ou presque peut trouver son bonheur et il suffit de parcourir les rues de nos centres-villes, les galeries de ces toujours très sympathiques centres commerciaux, toujours plus gigantesques, pour trouver, pour constater qu'avec tous ces grands magasins, nous ne manquons pas d'offres pour ce qui est notre habillement, quoi qu'il nous en coûte parfois et surtout quoi qu'il en coûte à notre environnement.
Mais en quoi notre environnement est-il impacté par l'industrie textile ?
Je dirais presque bonne question, Chloé. Merci de me l'avoir posée, comme disait un homme politique. Il est tout simplement que, tout simplement parce que l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante dans le monde, juste après celle du pétrole. Donc, vous voyez, c'est tout à fait considérable. Derrière ce constat, aujourd'hui répandu dans les esprits, il est cependant difficile de trouver un chiffre fiable et unique. Selon les études, cela varie fortement entre 3 et 10% des émissions de CO2 mondiales, mais vous le voyez, c'est déjà tout à fait considérable. En 2019, un kilo de textile consommé en France, alors dans un vêtement ou un linge de maison grand public, génère 54 kilos d'équivalent CO2. En comparaison, un kilo de textile produit en France génère seulement 27,7 kilos d'équivalent CO2, soit la moitié de celui que nous consommons et qui, par définition, vous l'avez compris, était produit à l'étranger. La pollution produite par ce secteur d'activité ne nous impacte pas directement, puisque, c'est ce qu'on disait, nous on a de la chance, on dit on est un pays vert, tout le monde s'en flatte et s'en parfume. Oui, on est un pays vert parce qu'on a importé notre pollution chez les autres, et notamment les pays en voie de développement. Donc, pour revenir au textile, 95,7% des textiles que nous consommons viennent de l'extérieur de notre pays. De 2005 à 2015, nos émissions de CO2 ont donc baissé de 20%, on est très heureux. Et le principal contributeur de cette baisse est l'industrie manufacturière qui fait moins 40%. Alors ça se voit très facilement puisque si on fait le parallèle avec l'accroissement du déficit de notre balance commerciale sur la même période et sur les mêmes thèmes, ben c'est instructif. Chaque fois que nous baissons nos émissions de CO2 de 10 millions de tonnes, nous provoquons un déficit supplémentaire de 5 milliards d'euros. Cherchez l'erreur. Et en plus, et surtout, je dirais presque, nous avons perdu le savoir-faire. Nous ne savons plus aujourd'hui, ici, dans ce pays, fabriquer des vêtements de qualité à un prix abordable, ou en tout cas, ce savoir-faire n'est plus entre les mains que de quelques personnes.
Ce qui veut dire que nous exportons notre pollution.
Et voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, Chloé, c'est ça. Nous parlions récemment de métaux rares dans la dernière émission, qui sont traités loin de notre pays avec des coûts écologiques colossaux. Et ben, il en va de même pour l'industrie du textile. Là aussi, nous avons préféré casser notre outil de production, désindustrialiser, tout ça pour aller produire ailleurs, là où c'est le moins cher. Et refiler ainsi, si vous me passez l'expression, le bâton merdeux à d'autres qui ne pouvaient pas refuser ce cadeau empoisonné, n'en avaient pas économiquement les moyens.
Mais alors, qu'est-ce qui est polluant dans le fait de fabriquer des vêtements ? Parce qu'a priori, cela apparaît être une industrie tout ce qu'il y a de plus banal et propre.
Eh bien, Chloé, trompez-vous, c'est exactement le contraire. Ce qui produit les gaz à effet de serre, ce sont principalement les machines qui vont transformer la matière première en vêtements. Puisque pour faire des fringues, il faut filer, il faut teindre, il faut tricoter, et ce au moyen de machines qui, elles, sont particulièrement énergivores. Et comme nous avons délocalisé notre production dans des pays qui sont, eux, particulièrement émetteurs de carbone, alors essentiellement l'Asie et notamment l'Asie du Sud-Ouest, l'affaire s'aggrave du fait que ces pays utilisent une énergie produite uniquement ou presque grâce aux centrales électriques qui, elles, fonctionnent au charbon. On revient un peu à ce que l'on disait tout à l'heure sur la dangerosité du charbon. Et bien sûr, en plus de tout cela, il faut transporter vers l'Occident toute cette fabrication qui ne va pas sans impact sur le climat. Vous vous en doutez, des millions de conteneurs sur de gigantesques navires.
Et comment ça se passe dans les pays producteurs, donc ?
Ça se passe pas bien, ça se passe même très mal d'ailleurs, notamment pour l'environnement, mais aussi pour les populations locales et bien sûr pour les employés de ces industries. On va prendre des exemples. On va aller au Bangladesh et à sa capitale, Dhaka. Souvenez-vous de l'effondrement de l'immeuble du Rana Plaza, c'était à Savar, faubourg ouest de Dhaka, appelé parfois la catastrophe de l'usine de Dhaka. C'était le 24 avril 2013 et il y a eu 1127 morts pour environ 2500 rescapés. On n'est pas tout à fait sûr du nombre des morts. Les secouristes ont passé plusieurs semaines pour tenter de retrouver les corps dans les décombres. Ce dont on est sûr, c'est que plus de 2000 personnes avaient été blessées, dont bon nombre sont restées mutilées. Puis il y a d'autres victimes qui sont toujours portées disparues, ce qui fait que ça veut dire qu'elles sont sous les décombres et bien évidemment mortes. Et c'est là que l'Occident s'est rendu compte qu'il se passait là-bas des choses pas très claires, et je suis, vous le comprenez, dans l'euphémisme. Mais qu'y avait-il sous ces décombres ? Eh bien, il y avait des femmes et des enfants travaillant 10-12 heures par jour pour des salaires de misère, souvent victimes d'accidents du travail, tout cela pour que nous, occidentaux, portions de beaux vêtements, si possible pas trop chers. Regardez toujours au Bangladesh ces tanneries qui travaillent pour l'industrie du luxe et qui déversent directement dans les rivières les eaux polluées issues des opérations de teinture. Opérations de teinture, c'est particulièrement polluant. Résultat, empoisonnement de toute la flore, de la faune, mais bien sûr, et corrélativement, de tous les habitants.
Mais il n'y a pas un moyen d'améliorer leur sort, par exemple, augmenter les salaires, installer des stations d'épuration ?
Ah si, ça on peut le faire, hein, et d'ailleurs ils le souhaiteraient sur place, mais ils subissent en permanence la pression des clients. Et les clients, ce sont les marques, ces fameuses marques que nous adulons et dont nous portons ostensiblement et fièrement la griffe. Ils exigent des prix toujours plus bas, ce qui veut dire que les employeurs plient systématiquement et ils vont pressurer leurs employés, dont le niveau de vie de ceux-ci n'a été en rien amélioré depuis des années, hein, parce que ça fait quand même très très longtemps que cette machine fonctionne. Et si d'aventure l'entrepreneur local veut 1 ou 2 centimes de plus par t-shirt, c'est pas beaucoup, c'est rien, eh bien c'est non. Et l'acheteur me menace d'aller ailleurs. Il dit, c'est très simple, je vais aller faire travailler d'autres gens dans d'autres pays. C'est extrêmement facile pour lui. Tiens, regardez, si au Bangladesh, le salaire moyen est de $100 mensuels, si vous allez en Éthiopie, il n'est que de $26. Donc la réserve de travail bon marché ne manque pas et la négociation est vite bouclée. Si Monsieur Zara n'a pas ce qu'il veut, c'est-à-dire le prix qu'il impose, c'est très simple, il va aller voir ailleurs. C'est totalement catastrophique. Donc il est hors de question dans ces conditions d'augmenter les salaires ou de mettre en place des moyens de nature à épargner l'environnement. Il y a des stations d'épuration qui avaient été bâties, mais elles ne fonctionnent pas parce que pour les faire fonctionner, il faut de l'argent. Et donc comme personne ne veut payer, et surtout pas les marques et in fine nous-mêmes d'ailleurs, les gens continuent à s'empoisonner.
Donc finalement, les responsables de cette situation, c'est nous, les consommateurs.
Ah oui, tout à fait. Là, bien aidé d'ailleurs en cela par une pression constante, soutenue par les publicités, le marketing, des revues plus ou moins spécialisées, puis par la création d'une ambiance de consommation, voire de surconsommation. Et puis disons-le, ça s'appelle plus de la surconsommation, ça s'appelle du laisser-aller jouisseur. On veut du réconfort, du plaisir à travers les vêtements. Nous sommes des sociétés malades qui ne savent plus comment exister et qui essayent de se réaliser ou de se faire plaisir dans la consommation. En France, cette consommation a doublé en 20 ans. Si l'on veut rester, et c'est très clair aujourd'hui, une augmentation des températures de 1,5 degré, c'est un vœu pieux, mais on essaye d'y tendre. L'industrie textile doit impérativement diviser par 3 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et nous en sommes très, très, très loin. Et ce d'autant moins avec ce mouvement baptisé la fast fashion.
Fast fashion, c'est-à-dire ?
Alors ça, c'est une tendance très répandue dans l'industrie de la mode qui repose sur un renouvellement ultra rapide des collections. Ce mouvement qui date des années 90-2000 et qui a perduré depuis, au principe est simple, renouveler en permanence le désir d'achat, créer de nouvelles collections le moins cher possible et pousser le consommateur à acheter, à avoir la dernière nouveauté, être à la mode dans le vent. Une espèce de course sans fin, vous le voyez, est totalement vaine, mais qui alimente le système de façon exponentielle. Donc la machine s'est emballée pour le plus grand malheur des pays producteurs et de leurs habitants, et puis au final, pour notre plus grand malheur à nous. Et si ce n'est pas cher, eh bien on se dit qu'il vaut mieux jeter que de réparer. Donc l'industrie textile est en train d'inventer le mouvement perpétuel.
Mais il doit bien y avoir des marques, des fabricants qui fonctionnent différemment, de façon beaucoup plus éthique et respectueuse ?
Oui, il y en a, Chloé, ça existe. On va prendre un exemple, celui de la société Loom. Alors je vais l'épeler parce que je ne le prononce peut-être pas très bien. L2OM, qui a été créé par Julia Faure et ses associés, j'y reviendrai tout à l'heure, eux fabriquent des vêtements qui durent. Ils se sont réunis, il y a 400 entreprises françaises qui ont fondé, ça s'appelle la Coalition Climat, qui appelle à plus de régulation de ce marché, sans d'ailleurs être entendu par les États, à commencer par le nôtre, et qui s'en moquent royalement. Donc on citait les noms de quelques dames ministres, elles ne savent même pas que ça existe, hein, la fast fashion, pour elles, elles ont les moyens d'aller faire les grands magasins, vraisemblablement, et je suis très heureux pour elles, mais elles contribuent au système comme les autres. Alors des sociétés à la démarche professionnelle et consciente des enjeux climatiques, mais qui représentent une part infime du marché face au rouleau compresseur des grandes marques, ben ça ne sert pas à grand-chose finalement, c'est un peu désolant, mais c'est comme ça. Il faudrait que la puissance publique intervienne, qu'elle demande aux pollueurs de faire le ménage chez eux, de commencer à s'auto-réguler, ce qu'elle a fait. D'ailleurs, M. Pinault avait monté tout un mouvement là-dessus, on a beaucoup communiqué. C'est une plaisanterie, une foutaise intégrale. C'est comme si, un peu si on demandait aux fraudeurs fiscaux de diriger la Direction générale des impôts. C'est à peu près de la même nature. C'est du, permettez-moi d'utiliser ce terme qui est très parlant, c'est du foutage de gueule.
Il existe donc ce qu'on pourra appeler une prime au vice.
Ah, complètement. Plus vous vous comportez mal, moins vous avez une conduite responsable et éthique, plus vous gagnez des marchés, plus vous gagnez d'argent. Plus vos actionnaires se frottent les mains, il faut aujourd'hui être compétitif, optimiser vos coûts, quelles qu'en soient les conséquences humaines et environnementales.
Mais cette masse de vêtements que l'on achète sans cesse, que devient-elle au prix actuel du mètre carré dans les villes? Elle ne doit pas rester entassée dans les armoires.
Alors, je ne sais pas si vous en avez beaucoup, Chloé, dans votre armoire, si vous avez un dressing colossal. Mais là, vous mettez le doigt sur un autre problème de cette industrie de la fringue, un problème même qu'on pourrait qualifier de colossal. Puisqu'on change en permanence de vêtements, puisqu'on ne les répare plus, puisqu'on veut toujours le dernier qui est sorti, ben, il va falloir s'en débarrasser. Donc, on peut s'adresser au marché de l'occasion, mais ça ne règle pas le problème, parce que lorsqu'on vide son armoire, c'est pour mieux la remplir. Donc, on jette. Alors, qu'est-ce qui va se passer de ces vêtements jetés? 3% vont être recyclés, c'est dérisoire. Et plus de 50% vont partir à l'Afrique. Alors là, on va aller au Ghana, parce qu'il faut un peu voir où ça tombe, là-bas en Afrique. On va prendre l'exemple du Ghana et de sa capitale, Accra. Le pays achète pour à peu près 80 millions de dollars par an de vêtements d'occasion. Ça fait trois fois plus qu'il y a 25 ans. Le pays est noyé sous le textile usagé. La Croix-Rouge, pour ne parler qu'elle et d'elle, et je ne veux pas la stigmatiser, la Croix-Rouge, vous le voyez, elle collecte des vêtements. Vous avez des collecteurs de vêtements dans les rues, là. Et elle vend la tonne pour 130 euros. Les habits vont partir en Belgique où ils vont être triés, donc je ne vous dis pas déjà tous ces mouvements, parce qu'il faut les ramasser, les collecter au niveau CO2, vous voyez le problème. Donc, ils vont être triés en Belgique, puis ils vont être vendus sur le marché international à 650 euros la tonne. Une tonne qui va se vendre au Ghana pour 1 800 euros. Alors, vous voyez, au passage, quand même, tout le monde, y a de l'inflation, tout le monde prélève sa marge. Donc, une tonne, on va avoir notre tonne qui est arrivée à Raqqa, là-bas, au Ghana, pour 1 800 euros. Et cette tonne va être débitée en balles, donc je ne connais pas le volume, mais qui vont être vendues à 100 euros à des revendeurs. Alors les revendeurs, eux, c'est un peu des joueurs, puisqu'ils vont acheter à l'aveugle sans savoir ce que contient le lot. Donc ils ouvrent, ils regardent, et puis ils s'aperçoivent qu'il y en a 50% qui ne valent rien, et donc ils le jettent. Ils jettent où? Ben, ça va s'entasser, parce que chez eux, c'est quand même pas la même réglementation que chez nous. Bon, déjà dans Toulouse, on voit beaucoup de choses dans les rues, mais ce n'est rien à côté de ce qu'il y a au Ghana. Au Ghana, ça va s'entasser dans des décharges à ciel ouvert tout autour de la ville, ou ça va s'entasser sur des plages qui vont être jonchées de vêtements. Les dix vêtements vont pourrir. Ils vont se, comme l'on dit, diffracter en particules qui vont aller polluer ben, les rivières, les sols, les océans, toute la campagne environnante. C'est totalement dramatique. Le pays, il faut le savoir, reçoit 15 millions de vêtements par semaine dont la moitié sont inutilisables et qui vont se retrouver, comme je vous le disais, un peu partout dans le pays. Donc c'est un spectacle qui est affligeant. C'est même, quand on y réfléchit, désespérant. Il faut quand même bien se dire que nous sommes en grande partie responsables.
Mais alors, que faut-il faire ? Quelle est la solution ?
Alors ça, la solution, c'est... Oui, il y en a hein, des solutions. Entre le... Je crois qu'aujourd'hui, en matière d'environnement, on en parle ici régulièrement, et c'est notre vocation d'Arcania, on parlait des terres rares, on parlera prochainement de la pollution engendrée par le numérique. Vous allez découvrir un monde qui va vous horrifier quand vous reprendrez votre smartphone, vous aurez un peu, ou votre ordinateur, vous serez peut-être un peu plus regardant. Des solutions, il y en a partout. On sait même les financer aujourd'hui. Le problème, c'est que personne ne veut les mettre en œuvre. Alors, simples à énoncer, elles le sont, oui, mais elles impliquent certainement ce qu'il y a de plus complexe à réaliser, c'est un changement des mentalités. Comme toujours en matière environnementale, nous constatons que nous sommes allés trop loin, on va trop loin, trop vite, dans la mauvaise direction, mais ça ne fait rien, on continue à accélérer. Donc, pour renverser ce paradigme, et qu'il est urgent d'inverser, ben, il faudrait d'abord inciter les gens à acheter, arrêter de les inciter à acheter toujours plus de vêtements, revenir à un niveau de consommation plus bas, donc à peu près revenir 20 ans en arrière, relocaliser la production dans les pays les moins émetteurs de carbone, c'est-à-dire chez nous, ne plus polluer ces pays du tiers-monde qui n'en ont tiré quasiment aucun profit parce qu'ils sont franchement esclavagisés et tout leur pays est pourri. Il faudrait remplacer les matières premières utilisées actuellement par des matières éco-responsables, ce que fait la société Loom dont je parlais tout à l'heure, retrouver notre savoir-faire perdu, ce qui nous permettrait de recréer des emplois dans ce domaine, et puis surtout, et ça pourrait s'appliquer dans tous les secteurs et pas seulement au secteur de l'industrie textile, stopper cette stupide et délétère course au fric. Et comme le dirait le général de Gaulle, vaste programme.
Et oui, et donc on va peut-être faire une petite pause musicale pour se remettre de nos émotions, Jacques.
Oui, je pense. Moi, je vous propose d'écouter Aragon, chanté par Marc Augeret. Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, ni de part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur et m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était elle ou non drôle, moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Wenzelern, entre la salle et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle, je venais m'allonger près d'elle, sur le canapé du bordel, dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent? Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage. Au-dessus des maisons, des quais, je les voyais par la fenêtre. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus, elle avait des yeux de faïence, et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville et la nuit monte les civils. Remets du rimel à tes cils, Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour, que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Voilà un peu de poésie dans ce monde que nous venons de décrire, un monde pour l'instant plus de brut que d'autre chose. C'était Marco Giré qui chantait Aragon. On repart faire un petit tour de monde dans nos brèves, Chloé.
C'est ça, et maintenant on va sous la terre dans le métro parisien.
Oh, on n'est pas très loin. Hein.
Depuis le 16 mai dernier, plus de 100 stations de métro à Paris sont placardées du dernier rapport du GIEC, accessible grâce à un QR code. Les usagers peuvent le scanner avec leur téléphone pour accéder à un résumé du rapport que les experts scientifiques ont rendu il y a plusieurs semaines. Et vous les avez vous-même aperçus, Jacques, d'ailleurs, pendant votre déplacement là-bas. Alors, est-ce que ça saute aux yeux? Est-ce que c'est intuitif?
Ben oui, moi ça m'a sauté aux yeux d'abord parce que, vous le comprenez, cette radio et cette émission, on est quand même très attentifs à tout ce qui touche à l'environnement. Alors je regarde les publicités d'un œil plus que distrait, mais là, ça m'a sauté aux yeux. Alors est-ce que ça saute aux yeux à tout le monde? C'est peut-être moins sûr. Mais les gens qui sont un peu sensibilisés à ces questions, oui, c'était pour moi, au milieu de toutes ces publicités, notamment pour les fringues que je stigmatisais tout à l'heure, pour moi, c'était quand même une grande surprise et une très agréable surprise que de voir ces affiches concernant le rapport du GIEC.
Alors, cette agréable surprise, c'est une initiative d'un collectif étudiant.
Ah, heureusement qu'il y a les jeunes. Hein.
Pour un réveil écologique qui a collaboré, on peut le dire, avec la RATP pour ce projet. Selon les auteurs de cette opération, ce rapport du GIEC et les alertes qu'il contient manquent de visibilité. C'est pourquoi ces étudiants ont pour objectif, à travers cette action choc, de sensibiliser un public plus large à l'urgence climatique et pas seulement les écolos. Ils espèrent également que ce ne sera pas qu'un buzz temporaire, car selon eux, c'est un sujet du quotidien qui ne doit pas sortir de l'esprit des gens. Le collectif se fixe de nouveaux objectifs à présent, d'abord de se donner plus de visibilité en faisant des plateaux télé, en allant directement à la rencontre des gens dans la rue et en reproduisant cette campagne au Festival de Cannes qui ne reçoit pas vraiment la même population que le métro, on peut le dire. Et cela permettrait donc de toucher encore une autre catégorie de la population.
Oui, ce serait bien parce que on est quelques-uns à penser, je ne suis pas original en disant ça, que s'il y a un renversement de tendance, s'il y a quelque chose qui vient, il viendra de la rue, des gens comme vous et moi, des jeunes, beaucoup, compte sur vous, mais certainement pas des politiques en place. Ce sera la pression que l'on leur mettra qui permettra tout doucement de faire évoluer les choses. Alors là, le problème est dans le tout doucement, puisqu'on sait que nous avons aujourd'hui assez peu de temps pour inverser globalement et totalement une tendance bien enracinée. Enfin bon, eh bien juste, tiens, vous parlez de Cannes.
Oui, voilà.
Écologie, cinéma, est-ce que ça va bien ensemble?
Eh bien, nous ne sommes pas sans savoir que l'industrie du cinéma est une des plus polluantes. Les tournages en eux-mêmes sont très polluants. Ces derniers représentent un quart de la quantité totale d'émissions de CO2 produites par cette industrie. Entre la construction, puis la déconstruction des décors, la consommation d'électricité, les déchets produits par les équipes et leur transport, le cinéma est bien loin du vert. Donc à l'heure du Festival de Cannes 2022 et d'un récent rapport du GIEC, comme on vient de le dire, très inquiétant, on ne peut que s'interroger sur la responsabilité d'une telle industrie. Et d'ailleurs, l'actrice Marion Cotillard, à l'affiche du film Frères et Sœurs d'Arnaud Desplechin, nommée à Cannes, est connue non seulement pour son impressionnante carrière dans le cinéma français et bien plus encore, mais aussi pour ses engagements écologiques.
Alors s'engager, c'est bien. Hein, c'est vrai que Marion Cotillard, elle est un peu à la pointe. C'est une star du cinéma depuis des années. Mais pratiquement, comment elle se saisit de ce problème de l'environnement, Chloé ?
Eh bien, en tant que sensibilisée à ces sujets, elle constate un net progrès depuis que cette dernière a commencé sa carrière d'actrice. Elle déclare dans une interview livrée aux médias bruts que les productions tentent de mettre en place des manières de moins consommer ou, au minimum, de moins polluer, avec notamment le tri sélectif. Donc, elle est très attentive à ces questions et elle a un peu eu la réputation de la... relou, si je peux m'exprimer ainsi, sur les tournages dans les années 80 quand l'écologie n'était pas vraiment un sujet. Et si on met un pied en dehors du cinéma, on découvre qu'elle est également égérie de grandes marques de luxe qui ne sont autres que Chanel et Dior. Alors on peut légitimement se demander si ce n'est pas un peu contradictoire de porter un combat comme l'écologie tout en étant égérie de grandes marques qui s'inscrivent dans une des premières causes du réchauffement climatique, comme vous en avez parlé précédemment, Jacques. Cette dernière se justifie en expliquant que ces marques prennent une voie plus verte et s'attachent à être de plus en plus vertueuses, comme elle le dit. Cette réputation leur est due, selon elle, au manque de communication et le manque de communication à propos de leurs bonnes actions, surtout.
Oui, enfin, c'est souvent « faites ce que je dis et pas ce que je fais ».
C'est ça.
On a fait un tour du monde, on est allé un peu partout. On va finir par... une ville un peu plus proche de la nôtre, même très proche, même que l'on voudrait rapprocher d'ailleurs avec un grand souci écologique de Toulouse, c'est Bordeaux.
Et oui, on va finir cette série de brèves avec une bonne nouvelle encourageante. Il y a 2 semaines, le plus grand parc de panneaux solaires en zone urbaine de toute l'Europe a fait son apparition à Bordeaux. Il a été inauguré en présence de Xavier Nas, directeur général de JP Énergie Environnement, la société normande de Caen sélectionnée pour réaliser ce projet, Antoine Trotsch, le directeur investissement à la Banque des Territoires, Pierre Urmic, le maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux et Claudine Bichet, vice-présidente de Bordeaux Métropole, en charge du climat, de la transition énergétique et de la santé. Aussi appelé centrale photovoltaïque, ce projet a été initié par le maire écologiste de Bordeaux, donc Pierre Urmic, qui tient à développer l'énergie photovoltaïque tous azimuts en milieu urbain, comme il le dit. Ce dernier est déterminé dans la transition énergétique de sa ville et entend atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est pourquoi, à 10 km de la métropole, 145 000 panneaux ont été installés après 1 an de travaux sur un terrain de 60 hectares qui d'ailleurs était une décharge désaffectée auparavant. C'est donc d'autant plus un exemple de développement durable car cet espace n'était voué à rien étant donné que son sol est chargé de déchets qu'il serait très dangereux de déterrer. Impossible donc pour les ouvriers de planter ces panneaux dans le sol, donc ils sont tout simplement posés. Et toute cette installation est capable de subvenir au quart des besoins en électricité de la ville, soit 70 000 habitants. Mais Bordeaux n'en a pas fini avec le vert, d'autres ambitions sont à venir pour l'agglomération, avec notamment un projet de panneaux solaires sur la base sous-marine de la ville, un exemple d'écologie pour toutes les villes de France, qui ferait peut-être bien d'en faire autant. Est-ce que vous pensez que le maire de Toulouse serait capable d'un tel projet, Jacques ?
Ah, je ne suis pas dans la tête du maire de Toulouse. J'en suis pas absolument sûr. Je m'interroge aussi sur le projet de M. Urmic, parce que ce qui serait intéressant, c'est de nous dire d'où viennent les panneaux solaires. Parce que nous avions quand même en France une industrie de panneaux solaires. On avait une très grande et très belle entreprise à Agen, qui était extrêmement impressionnante à visiter, qui fabriquait des panneaux solaires. Elle a été obligée de fermer. Pourquoi est-ce qu'elle a été obligée de fermer ? Parce qu'il y avait la concurrence que nous avons largement et indirectement subventionnée des panneaux chinois. Donc les panneaux viennent de Chine. Eh bien oui, les Chinois, là, ils sont partout. Il y a aussi quelques terres rares quand même dans les panneaux solaires. Donc je ne sais pas si M. Urmic a fait fabriquer ces panneaux en France, ce serait intéressant de savoir, s'ils sont venus de Chine, s'il s'est penché sur le problème des terres rares, et accessoirement, ce que ça a coûté de les amener, combien de temps ils vont durer, et qu'est-ce qu'on en fera une fois que ces panneaux seront devenus obsolètes, ce qui est une question extrêmement importante à poser. Alors je ne sais pas à quoi pense M. Moudin, qui encore une fois, je ne suis pas dans son esprit, mais ce que j'aimerais, c'est en savoir plus sur ce que fait M. Pierre Urmic à Bordeaux et de savoir si, en dehors de la communication, c'est un bon projet, le solaire, il n'y a rien à dire, mais est-ce que tout cela est entièrement vert d'un bout à l'autre de la chaîne ? Et c'est là que j'ai peut-être quelques doutes.
Eh bien, nous creuserons la question, Jacques.
Voilà, et vous nous parlerez de ça à notre prochaine rencontre autour de ce micro et autour de l'émission Arcania. Bien ! Nous avons bien avancé, le temps aussi. Nous arrivons à la dernière séquence de cette émission, Chloé.
Oui, c'est le conseil culturel. Alors,
qu'est-ce que vous nous proposez ?
Eh ben, je vais vous proposer aujourd'hui un livre qui s'appelle Insolente Veggie. Alors, plus précisément, c'est une série de bandes dessinées humoristiques créée par la dessinatrice et militante antispéciste végane Rosa B, qu'elle a écrite en 2015 et publiée par l'édition La Plage. Cette dernière est devenue végétalienne en 2006 en réaction à la souffrance des animaux d'élevage et démonte ainsi dans ses BD les clichés qui collent à la peau de ceux qui ont fait ce choix. Donc voilà, c'est une très bonne BD pour se familiariser avec le sujet.
Insolente Veggie, c'est de qui rappeler son nom ?
Rosa B.
Rosa B, elle est française ?
Oui.
Non, si elle ne l'était pas, mais c'était... Juste avec un titre un peu, presque un peu anglo-saxon, non ? Veggie, c'est quand
même
pas...
Veggie, c'est un terme pour rassembler les véganes, les végétariens. Fin...
Ça a l'air de vous y connaître,
oui,
Chloé.
Oui, un petit peu.
C'est
qui ont renoncé à la viande, voilà.
Voilà, et qui massacrent carottes, choux et autres tomates, c'est mal.
Ça.
Moi, je vais vous reparler de Julia Fort. Hein, je vous en ai dit un mot tout à l'heure. C'est une jeune femme, elle est née en 88. C'est une entrepreneuse française donc, qui fabrique des vêtements textiles et durables et qui essaye de défendre cette industrie textile pour qu'elle devienne écologique et vertueuse. Alors, c'est quelqu'un qui a pas mal, qui a une vie antérieure, qui est ingénieur en agronomie, qu'elle a obtenu à AgroParisTech, ce qui n'est pas rien, qui a travaillé pendant 2 ans chez Amazon, elle a dû en voir des choses en Espagne, et puis elle a suivi des études de genre à l'Université Autonome de Madrid. Et en 2018, elle va fonder avec Guillaume Declerc l'entreprise de vêtements durables et éthiques Loom, donc une entreprise qui veille à produire des vêtements qui auraient un faible impact sur la planète et sur les humains, des vêtements qui sont fabriqués dans de petites usines en France ou au Portugal. Elle contrôle ses fournisseurs, s'assure qu'il n'y a pas d'exploitation d'enfants, de femmes sous-payées, d'usines en Asie, de pesticides dans les usines utilisées ou, ça va vous plaire Chloé, mais ça me plaît moi aussi, qu'il n'y a pas d'animaux maltraités. Et donc l'entreprise s'inscrit dans un modèle économique décroissant et invite ses clients à acheter moins. Et cela se fait notamment, et c'est pour ça que je vous en parle dans le Conseil culturel, à travers un blog, ça s'appelle « Le mode à l'envers », que vous pouvez aller consulter, qui vulgarise les sujets de l'industrie textile, en particulier tout ce qui concerne la conception, le marketing et leur impact environnemental. Alors vous avez des petits films qui ont été faits, « La mode à l'envers » dans ce blog, des vêtements Loom, je le répète, pourquoi les entreprises détruisent la planète, le coton bio, etc. Donc allez voir le travail de Julia Fort et de M. Declerc, vous verrez, c'est tout à fait instructif et passionnant. Merci à eux. C'était Arcadia, une émission de Jacques Lavergne avec Chloé Morand-Bridé à la réalisation. Il y a beaucoup de monde derrière la console, je ne vais presque pas tous les citer. Il y avait Marcou qui tenait les boutons, mais qui était assisté de Tiphaine Lemaine, de Victor et de Thomas. Merci à eux. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie avec Chloé Morand-Bridé. Je l'ai très bien dit, je me suis bien entraîné. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle édition d'Arcadia dans laquelle nous vous parlerons de quelque chose qui est extrêmement méconnu, d'ailleurs certainement autant que la pollution par le textile, qui est la pollution par l'industrie numérique. On va vous amener dans un monde qui n'est pas du tout merveilleux et vous allez peut-être tomber du haut de votre chaise dans tout ce monde que l'on dit dématérialisé, qui n'a jamais été autant matérialisé et qui nous coûte aussi cher en électricité et en eau. Belle journée malgré tout à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir Chloé, à bientôt.